C'est avec plaisir que je vous retrouve pour le journal en français de Studio Kalangou. Il est 18h dans ce studio et partout au Niger. Vous êtes en direct. Moi, c'est Diallo Maria Makenda. Jeudi 25 juillet 2019, au sommaire de ce journal, l'État du Niger condamné à verser 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la radio et télévision Labari fermée, rappelons-le, durant 5 jours en mars 2018, occasion pour Maître Boudal Moulal et Fred, avocat de Labari, de déclarer qu'il s'agit là d'un grand pas pour la justice et une garantie pour les libertés fondamentales. La modernisation de la capitale nigérienne se poursuit plusieurs semaines après le sommet de l'UA. Les travaux sur les chantiers continuent car inscrits dans un cadre global de cette modernisation, a déclaré le gouverneur de la région de Niamey. Direction Maradi pour écouter le chef de secteur au sultanat du Gobir Tibiri qui parle de l'insécurité dans les villages du sultanat frontalier du Nigeria. C'est le magazine de ce journal. Bonsoir, bienvenue messieurs, dames. L'État du Niger appelé à verser la somme de 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la radio et télévision Labari fermée durant 5 jours en mars 2018. C'est un rappel, les locaux de ce groupe ont été fermés après l'intervention à la télévision Labari de l'activiste Lirwana Abdourahman le jour de la manifestation de la société civile interdite par l'autorité. Selon l'avocat de Labari, cette décision de donner raison à son client constitue une garantie pour la liberté d'accès à l'information. Maître Boudal Moulal et Fred au micro de nos confrères de la radio et télévision Labari.
Le tribunal s'est déclaré compétent, reçoit l'action de la radio et télévision Labari comme étant régulière à la forme. Au fond, constate que la fermeture et l'interdiction d'accès aux locaux de la radio et télévision Labari par l'État du Niger du 25 au 30 mars 2018 constitue une voie de fait. Dit que la radio et télévision Labari a subi des préjudices du fait de l'État du Niger, condamne l'État du Niger à lui verser la somme de 10 millions à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Et le tribunal a même assorti la décision intervenue de ce qu'on appelle l'exécution provisoire, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, cette décision est même exécutoire, nonobstant toute voie d'appel, même si l'État interjette appel. Il s'agit là d'un grand pas pour notre justice, un message fort et une garantie fondamentale pour les libertés fondamentales, pour le droit d'accès à l'information et pour tous les organes de la presse.
Mobiliser et sensibiliser les acteurs locaux de la région de Zender à promouvoir l'économie locale tout en valorisant les apports de la migration et en diminuant ses effets néfastes, c'est l'objectif visé à travers un forum en cours à Zender avec des participants venus du Sénégal et du Cameroun pour partager leurs expériences avec les Nigériens trouvés sur place. Les précisions du président du conseil régional de Zender, Moutar et Ousmane au micro de Mustapha Mamansani.
Le présent forum constitue incontestablement une occasion offerte aux différents acteurs locaux de développement de notre région de pouvoir se mobiliser et pouvoir sensibiliser toutes les couches de la population au développement de l'économie locale, tout en prenant en compte les enjeux et les dynamiques de la migration. Il s'agit en d'autres termes de transmettre aux acteurs concernés par le développement économique de la région des connaissances pratiques sur l'approche du développement économique local en partageant avec eux des expériences éprouvées, issues notamment de la région elle-même, de notre pays, de la sous-région ouest-africaine et d'ailleurs, permettant ainsi d'atténuer les impacts négatifs de la migration sur le développement économique de notre région et d'exploiter les opportunités qui y sont offertes.
La pluie importante du week-end dernier sur Niamey a rendu impraticables certains axes de la capitale. Constat avec le directeur de la voirie de la ville de Niamey, Tonko Wahidi.
Dans la ville de Niamey, le centre-ville n'est pas tellement touché. C'est surtout les quartiers périphériques, là où il n'y a pas eu de viabilisation. C'est là où on trouve beaucoup de flaques d'eau et même à certains endroits, c'est des mares. Certaines rues sont vraiment impraticables. Quand vous prenez un quartier comme Bobiel, qui se trouve dans la commune Niamey 1. Ce quartier, même les grandes artères, c'est très difficile à y pénétrer avec des véhicules. Vous trouverez le même cas au niveau du quartier Kouartagi. Au niveau de la commune Niamey aussi, quand vous prenez Lazari, c'est la même chose. Et tout cela, là, c'est parce qu'au départ, la violation n'a pas suivi. Le quartier qui est un peu touché par la pluie, c'est surtout le quartier de l'Aviation. Et l'eau a fait des dégâts à l'aéroport, parce qu'il y a des maisons qui sont tombées. Bien avant même ces pluies, en réalité, nous, au niveau de la mairie, on a pris des dispositions. C'est de faire des tranchées qui permettent les écoulements des eaux vers le fleuve.
Afin de prévenir les risques d'inondation, les responsables municipaux d'Agadez ont entrepris les actions cette semaine. C'est ainsi qu'ils procèdent au remblage de certains endroits accidentés et à l'évacuation des eaux dans différents quartiers de la ville. Le reportage de notre correspondant Anissé Karim.
Chaque année, pendant la saison de pluie, beaucoup de quartiers de la ville d'Agadez sont victimes d'inondations. Encore cette semaine, plusieurs maisons se sont effondrées, notamment au quartier Obitara, où les sinistrés laissent un cri de cœur. Mariama Hamid témoigne.
Nous avons d'énormes difficultés. Sur nos 4 chambres, une seule tient encore. Toutes les autres se sont effondrées. Notre concession était débordée des eaux de pluie. Nous avons vraiment besoin d'aide. Car quand il pleut, il nous faut dégager l'eau qui stagne dans nos maisons avec des seaux. Dès que l'orage se manifeste, nous sommes dans l'angoisse. Car s'il pleut, nous n'aurons aucun endroit pour se coucher et pour cuisiner également.
Pour répondre à l'appel des sinistrés et s'est exposé au risque d'inondation, le vice-maire de la ville a annoncé que des actions de remblayage et de drainage des eaux de pluie sont engagées. Aboubacar Ajouel.
On vient de lancer une activité de remblayage, de drainer le passage pour permettre à l'eau de passer. C'est l'ensemble des quartiers de la commune qui sont concernés. Déjà des endroits là où on a des problèmes pendant la saison pluvieuse, ils sont identifiés et connus. J'ai demandé à la population, des personnes concernées ici, ils ont des problèmes, donc de contacter directement les agents de la mairie. Ça va nous permettre donc de réagir le plus tôt possible.
L'eau ainsi collectée est déversée dans les courries et réutilisée à d'autres fins. Anissé Karim, Agadez pour le studio Kalangou.
Le tronçon routier entre Margot Béné et Winditan est en piteux état alors qu'il contribue au développement du commerce entre le département de Boboye et celui de Belayara qui ont pour centre d'intérêt le marché hebdomadaire de Yeda. Selon un usager interrogé par Sidi Abdou Winditan, il faut 4 à 5 heures pour parcourir ce trajet de 90 km.
Le tronçon Winditan-Margou a une distance de 90 km. Pour ces 90 km, il va falloir faire 5 heures de route. Les véhicules assez résistants font 4 heures de route. C'est vraiment un calvaire. La route est sablonneuse. C'est surtout le sable qui cause les pannes des véhicules. De temps en temps, il y a des gens qui procèdent au nivellement. S'ils le font aujourd'hui, demain, c'est le même phénomène qui reprend. C'est des pelles que les gens utilisent pour décaper le sable. Et nous, de temps en temps, nous leur faisons un petit geste. Cela ne peut pas résoudre le problème. Quand les eaux arrivent, il va falloir que l'apprenti descende du véhicule et passe devant pour jauger la hauteur des eaux. Nous souhaitons la construction d'un pont. L'état de la route cause beaucoup de dégâts à nos véhicules. Avant d'arriver, chauffeurs et passagers, nous sommes tous abattus. Notre cri de cœur, c'est de dire aux autorités de penser à nous pour que cette route soit reconstruite.
Si au lendemain du sommet de l'UIA, l'on constate des travaux inachevés, c'est qu'ils rentrent dans le cadre global de l'action du président nigérien Issoufou Mamadou qui vise à moderniser la ville de Niamey. C'est ce qu'estime le gouverneur de la région de Niamey, Issaka Karanta, qui fait le point de ce qui reste.
Les chantiers ne sont pas terminés parce que c'est des chantiers qui rentrent dans le cadre global de l'action du président de la République de la modernisation de la ville de Niamey. Nous avons d'autres hôtels en construction au niveau des cases allemandes. Vous avez la voie de la corniche qui est en train d'être bitumée. Et le palais de congrès qui a été restructuré, eh bien vous aurez très bientôt, en face du lycée Issa Corombé, l'hôtel des finances, où tous les services désormais qui relèvent du ministère des finances seront regroupés dans un bâtiment de 17 étages également, entre l'ONAREM et la LONANI. Vous aurez très bientôt également l'hôtel du pétrole de 19 étages cette fois-ci. Au-delà de la conférence de l'UIA ou de la ZLECAF, beaucoup de voies adjacentes à la voie express seront bitumés. Tout ce que nous demandons à la population de Niamey, c'est de s'approprier ces réalisations, de les pérenniser dans la durée pour nous-mêmes.
Comme chaque année à l'occasion du Hajj, certains pèlerins nigériens emportent d'importantes quantités de noix de kola destinées à la vente en Arabie Saoudite. Un commerce mal accepté par l'autorité saoudienne, même si ici au Niger, ce produit n'est pas prohibé, d'où l'appel régulier des organisateurs du Hajj aux pèlerins afin d'éviter de transporter trop de kola vers l'Arabie Saoudite. Les précisions de Seydou Maman Nassirou, communicateur du Haut Commissariat à l'organisation du Hajj.
C'est des situations que nous gérons chaque année. La kola, les produits éclaircissants des femmes et bien d'autres choses qui sont interdites en Arabie Saoudite. En fait, la kola n'est pas interdite, c'est le caractère commercial qu'ils ne veulent pas. Sinon, un pèlerin, il a le droit d'amener jusqu'à 2 kilos. Hein. Mais vous allez voir nos pèlerins qui prennent 30-20 kilos. Nous étions rentrés en contact avec les directions de la douane ici pour qu'ils nous aident à éradiquer ce phénomène. Ils nous ont dit que ce n'est pas possible ici. La kola n'est pas un produit prohibé. Ils ne peuvent pas prendre la kola. Donc, c'est des sensibilisations qui ont été faites pour que les gens comprennent le danger d'apporter cette kola en quantité exorbitante et les produits éclaircissants surtout de ne même pas amener. Nous avons pris toutes les dispositions pour que des produits pharmaceutiques et une vingtaine de médecins infirmiers soient acheminés en Arabie Saoudite pour s'occuper de la santé des pèlerins. Ceux qui les dépassent sont directement orientés dans les hôpitaux saoudiens et la prise en charge est gratuite.
Le président de la Tunisie, Bedji Kaïd Essebsi, est décédé ce matin à l'âge de 92 ans à l'hôpital militaire de Tunis, a publié aujourd'hui la Radio France Internationale sur son site web. Selon RFI, Essebsi avait été hospitalisé en soins intensifs la nuit dernière en raison de problèmes respiratoires. Il était le premier président tunisien élu démocratiquement en 2014. Bedji Kaïd Essebsi est mort à quelques mois de la fin de son mandat, a précisé RFI. La partie magazine de ce journal, à présent, la situation sécuritaire préoccupante dans les villages frontaliers du sultanat du Gobir Tibiri, région de Maradi avec le Nigeria. Selon Yahya Bawa Janjuna, chef de secteur au sultanat du Gobir Tibiri, tous les villages frontaliers du Nigeria sont touchés par le phénomène d'insécurité qui sévit.
Les populations du Gobir Tibiri vivent en symbiose avec les déplacés du Nigeria chassés par les attaques dans leur pays. Malgré la bonne cohabitation avec les populations locales, l'inquiétude demeure, explique le chef de secteur du sultanat du Gobir Tibiri, Yahya Bawa Janjuna.
La situation elle est très critique parce qu'il y a plus de 60 villages qui se sont déménagés du Nigeria pour venir s'installer dans nos villages frontaliers du Nigeria.
Quels sont les villages qui sont touchés par ce climat d'insécurité?
Ah, c'est beaucoup, c'est tous les villages tout au long de la frontière avec le Nigeria, parce que c'est plus de 20 ou 30 villages qui sont concernés.
Sur place, comment se passe la cohabitation avec les populations locales?
Oui, il y a une bonne cohabitation, mais vous savez une chose, le nombre de gens là qui se sont déplacés dans nos villages frontaliers, parfois ils dépassent le nombre de nos villageois qui sont dans le village. Cette situation elle est un peu difficile à gérer, point de vue alimentaire, point de vue eau. Maintenant, on est avec eux, tant mieux que mal, parce que ce sont des difficultés qui les ont amenés. Donc nos gens sont obligés de les supporter et on est en train de vivre comme ça.
Est-ce qu'il y a une situation de psychose ou bien de crainte sur place dans les villages?
Oui, il y a une situation de crainte parce que on n'a pas la même civilisation que ces gens-là. On n'a pas la même éducation. Maintenant, nos gens vont apprendre leur éducation qui vraiment, parfois, ça ne concorde pas à notre réalité. Ils sont venus avec tous leurs enfants, toutes leurs familles. Nos gens sont obligés de tomber dans des difficultés alimentaires et difficultés de santé même. Il y a beaucoup de choses.
Est-ce qu'il y a des Nigériens qui sont retenus encore en otage vers le Nigeria?
Nous pouvons dire que ceux qui sont retenus dans des mains de ravisseurs sont décédés. Mais il y a une petite fille tout dernièrement dont on a tué son père et un conseiller communal. Elle est dans leurs mains. Elle est de moins de 12 ans. Elle a été sévrée le jour de la fête par sa maman. Maintenant, nos attentes et nos vœux, c'est que le Nigeria puisse faire un effort que ces gens-là, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des déplacés, qu'ils retournent dans leur village. Nous, ici au Niger, Dieu merci, vraiment nos forces font de leur mieux, parce que quand ils rentrent, c'est difficile qu'ils sortent sans les tuer. Même si c'est dans le Nigeria, on les poursuit. Si quand même le Nigeria fait cet effort-là, comme c'est dans son territoire, où ils se cassent ces gens-là, mais on peut éradiquer ce fléau très facilement. Ils ont peur de rentrer au Niger, parce qu'ils savent que vraiment nos forces nient toujours au sol là, sur place, et ils sont en train de sécuriser tous nos villages frontaliers.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Je vous laisse à présent en compagnie de Mokhtar Amado que vous retrouverez dans le forum de Studio Kalungu. Il vous parle ce soir de la tabaski, conseils et recommandations.